Alors merci à toutes d'être venues ce soir. Vous l'avez compris, ce soir on va se pencher sur la question des entendeurs de voix. Est-ce qu'il faut en avoir peur? C'est une conférence débat où vous allez tous pouvoir y participer. Vous allez voir, c'est un débat non pas contradictoire, mais où on va voir la collaboration de ceux qui sont là ce soir, ce qui est très important de le préciser. On va savoir, on va connaître l'expérience de chacun, la vôtre et la leur, et surtout connaître un petit peu ce qui en ressort et ce qu'on peut en faire. Alors Martine Bertino, on la connaît parce qu'elle est philosophe, écrivain, elle a créé aussi, elle a fondé une association qui s'appelle Duchamp Libertino, elle s'occupe aussi de la formation des médiateurs, mais elle a créé aussi une école d'éveil philosophique pour les enfants et les adolescents, et à ce titre, ça la met vraiment dans une situation où elle connaît les causes, les origines de ce trouble, qui souvent se trouve dans l'enfance, dans le rapport problématique avec la famille. François Lederman, que vous connaissez peut-être déjà, qui est thérapeute et philosophe, président du Rêve, c'est l'association d'entraide des entendeurs de voix. Cette association, maintenant, elle existe déjà depuis quelques années, depuis 2001, mais depuis 15 ans, on en parle maintenant. C'est une association qui prend en compte tous ceux qui ont des troubles de la perception, que ce soit visuel, olfactif, auditif, bien sûr, mais aussi gustatif. L'objectif de cette association, c'est de pouvoir vous écouter, de dialoguer, de faire de la recherche, mais aussi de collaborer avec les institutions, qu'elles soient politiques ou publiques, et surtout d'informer, parce que beaucoup de gens ignorent ce qu'est ce problème. Il faut savoir que, pour terminer, les docteurs Marco Merlot et Philippe Rébelet, tous deux ont une expérience assez similaire. Ils sont psychiatres et psychothérapeutes et travaillent depuis plusieurs années sur ce qui concerne la spécialisation des enfants et des jeunes adultes, des adolescents, qui souffrent de troubles débutants. Et à ce titre, ils ont créé d'ailleurs un programme qui s'appelle le programme JAD, qui est le programme pour les jeunes adultes qui souffrent de troubles psychiatriques débutants. Ils vont pouvoir expliquer ce que c'est exactement. Ce qu'on peut dire sur les entendeurs de voix, c'est qu'au départ, c'est quelque chose qui est inné, qui est naturel, et ça dépend de ce qu'on en fait. Notamment, Martine Libertino va pouvoir vous expliquer de cette façon d'entendre sa voix comme une intuition et non pas comme un problème ou une maladie. Il faut savoir qu'il y a 35 à 40% de la population qui, au moins une fois dans sa vie, a entendu des voix, et alors que pour 5% de la population, c'est quelque chose qui est assez récurrent. On a tendance à croire que ce sont les schizophrènes qui entendent des voix. Ce n'est pas le cas. Vous pouvez entendre des voix sans être schizophrène et être schizophrène sans avoir des hallucinations auditives. Il y a quand même 60% des schizophrènes qui ont ce genre d'hallucinations. Ce qu'on peut savoir, c'est que les gens qui souffrent de ce trouble-là, en général, ils sont situés dans une situation de stress assez extrême. Ça peut être un deuil, ça peut être un trouble, un abus physique, sexuel, une torture en période de guerre, mais aussi des conditions extrêmes, ça paraît surprenant, mais être en altitude, haute altitude, la privation du sommeil et puis aussi le confinement. Alors il y a une façon différente de définir ce qu'est l'hallucination, on va pouvoir l'expliquer ce soir. Et ce qu'on sait, c'est que ceux qui souffrent, souvent ont de la peine à le dire, parce que ce n'est pas quelque chose d'évident, et ils ont la perte des sens, de la perte des valeurs morales, souvent des problèmes au sein de leur famille, ils perdent un petit peu leur quiétude. Et puis ceux qui semblent être les plus vulnérables, eh bien ce sont les enfants. Les enfants, justement, ceux avec qui travaille Martine Libertino. Alors Martine Libertino a utilisé, comme je l'ai dit, elle a créé une école d'éveil philosophique pour les enfants et les adolescents. Vous, avec votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce trouble qui semblerait naître chez les enfants d'abord ?
Alors, ce que je peux dire, c'est que pour moi, il est évident que ce trouble va naître chez un enfant. Ce qu'on appelle un trouble, puisque ce n'est pas forcément un trouble, ce trouble va naître chez un enfant parce que déjà, au départ, nous avons, comme vous l'avez dit très justement, nous avons tous des facultés de percevoir certaines choses, aussi bien du point de vue visuel que du point de vue auditif. Et donc, cette perception, justement, chez l'être humain est innée. Donc il est évident que lorsque une personne, au départ, de par sa sensibilité, de par sa personnalité, va avoir justement une sensibilité peut-être un peu plus exacerbée qu'une autre, il est évident que cette sensibilité va déjà se démasquer chez l'enfant tout jeune. Bien sûr que, comme vous le dites aussi, il y a certains paramètres qui vont amener cet enfant à percevoir certaines choses, du fait aussi de certaines qualités qu'il va avoir au départ dans sa personnalité qui, mal comprises, peuvent devenir des difficultés chez lui. Ben, prenons peut-être un exemple. Certains enfants naissent avec des capacités imaginatives très fortes peut-être que cet enfant vivant dans un milieu équilibré va pouvoir utiliser ses capacités donc imaginatives pour créer, pour construire sa vie. Mais un enfant qui peut se trouver dans une situation difficile parce que ses parents le rejettent ou ses parents ne le comprennent pas ou ses parents sont occupés parce que malheureusement ils doivent travailler ou ils ont des problèmes extérieurs, cet enfant va avoir tendance par exemple à se replier sur lui-même, à se refermer, et donc il va encore plus renforcer ses facultés d'imagination qui par exemple accouplées à des angoisses peuvent devenir négatives pour lui, puisqu'à partir de ce moment-là, il va évidemment développer encore plus ce système à l'intérieur de lui, qui est d'imaginer, par exemple, des fois.
Alors, je l'ai dit, vous êtes thérapeute, mais une des critiques principales que vous faites, c'est que vous trouvez que les spécialistes, trop souvent, ont recours à des phénomènes, enfin, à des médicaments, pour le dire clairement, et que, pour vous, il y a quand même un laps de temps qu'il faut prendre en compte pour pouvoir s'en sortir. Est-ce qu'on peut dire que combien de temps ça prend pour un enfant, un adolescent qui entendra des voix pour pouvoir lui permettre de s'en sortir? Est-ce qu'on s'en sort ou est-ce qu'on le transforme?
Bon, d'abord tout dépend de la famille, parce que c'est pas seulement l'enfant. Il faut surtout pas se dire un enfant a un problème, le thérapeute va le prendre en charge et il va s'en sortir. Ça, c'est une erreur fondamentale, dans ce sens que cet enfant vit au sein d'une famille et que, pour moi, il n'existe pas un problème, il existe plusieurs problèmes. Et quand je dis problème, ça ne veut pas dire que les parents sont fautifs, absolument pas. Ça veut dire simplement que nous pouvons avoir au sein d'une famille des difficultés, et souvent d'ailleurs, ce que je vais trouver pour ce type d'enfant, je vais trouver souvent des parents, enfin, je vais rencontrer des parents qui ont beaucoup de peur, qui ont beaucoup d'angoisse et qui donc vont devenir assez protectionnistes pour cet enfant, ce qui va développer encore plus chez cet enfant justement une angoisse particulière. Donc pour moi déjà c'est pas l'histoire de l'enfant, c'est l'histoire d'une famille. C'est pour ça que lorsque je traite un enfant, je demande, je dirais même que pour moi c'est une condition, je demande que la famille participe. Et quand je parle de la famille, je parle des parents et je parle des frères et sœurs, s'il y a des frères et sœurs, parce que c'est vraiment une thérapie familiale. Bon, maintenant, comment un enfant va s'en sortir? Ben, déjà, tout dépend aussi à quel moment il est pris, parce que si un enfant commence à entendre des voix et qu'il est pris au sérieux par ses parents, déjà, on va le rassurer parce qu'il n'y a aucune honte à entendre des voix, il n'y a aucune angoisse à entendre des voix, c'est une faculté comme une autre, finalement. Hein. Et l'important, c'est que cet enfant, déjà, se rendu compte qu'il n'est pas normal, qu'il a peut-être certaines facultés. Maintenant, il va falloir faire une différence entre certaines facultés qui ne vont pas forcément l'incommoder parce qu'il ne va pas entendre des choses qui lui font peur et qui vont l'angoisser, et certains enfants qui peuvent d'ores et déjà entendre des choses qui vont l'angoisser. Et là, on va voir aussi que selon la personnalité de l'enfant, certains enfants vont avoir plus d'angoisse, vont avoir plus de peur, parce que leur personnalité peut les inciter donc à développer des peurs. Alors donc il y a tout un travail à faire au sein de la famille. Maintenant, comme je disais, tout dépend aussi du moment où l'enfant est pris. Ce que je peux dire aussi, c'est que lorsque un jeune vient me voir, si ce jeune a une vingtaine d'années et qu'il a derrière lui des années de prise de médicaments à des doses très élevées, ben évidemment que le temps qu'il va mettre pour s'en sortir sera proportionnel aussi à la dose de médicaments qu'il prend.
Il faut perdre ses habitudes.
Ben, il m'arrive d'avoir des jeunes qui viennent chez moi qui sont comme des légumes. Donc déjà dans les premières consultations, ils sont incapables de discuter, ils sont incapables de dialoguer. Et donc comment peut-on demander à une personne d'avoir une certaine volonté, une certaine motivation de s'en sortir si elle n'est même plus consciente de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit? Donc il va y avoir aussi je vais demander une ouverture aussi de la part des parents d'accepter l'idée que petit à petit cet enfant, enfin ce jeune, parce qu'il n'est plus un enfant à ce moment-là, d'accepter que ce jeune puisse petit à petit se libérer de ses médicaments, mais là aussi il va intervenir le thérapeute qui est à l'autre bout souvent, et le psychiatre ou le psychothérapeute, que cette personne aussi joue le jeu avec la famille pour qu'on puisse aider cet enfant.
Alors, vous le dites, cette collaboration avec la famille est importante. François Lederman, vous êtes président de l'association Rêve, et vous avez justement la possibilité de dialoguer avec ceux qui entendent des voix, mais avec ceux qui subissent ce mal-être autour de la famille. Quelle expérience vous avez sur cette question ?
J'en ai une double. Ça vous m'entendez ?
Comme ça, c'est dans le micro, c'est mieux.
J'en ai une double. J'en ai une personnelle parce qu'en fait, ça participe à mon existence depuis très longtemps. D'être dans un monde où je suis toujours confronté à des perceptions qui sont plus ou moins extrasensorielles, plus ou moins de voir des choses qu'on ne verrait pas forcément, de voir surtout les rapports et les relations qu'il y a entre les choses et la communication qui se passe entre. Et ça m'a amené à me poser beaucoup de questions sur l'homme, ce que nous sommes, et à considérer l'individu non pas comme une personne insensible, mais justement un résonateur d'une sensibilité assez extraordinaire. Alors, tout dépend du caractère de la personne. Il y a des gens qui sont plus ou moins ouverts, d'autres plus ou moins sensibles, plus ou moins sensibles. Ça, c'est très individuel. Alors, ce regard, s'est développé petit à petit à travers les démarches que j'ai entreprises pour que ce soit des formations pour développement personnel. Et puis, petit à petit, quand nous avons ouvert le rêve, et que nous avons commencé à accueillir des personnes dans le groupe de parole, c'était une humanité qui était en recherche de comment vivre avec ce trouble qui les a pour certains accompagnés, parce que certaines personnes ont des voix qui sont assez positives avec lesquelles ils peuvent vivre agréablement, je le dirais, mais d'autres personnes c'est vraiment difficile. Donc, pour ces personnes qui ont des difficultés, c'était intéressant de les rencontrer et de recueillir leurs témoignages, de les entendre et de voir en fait leurs difficultés, de prendre une distance et de comprendre comment marche tout cet aspect psychique, tout cet aspect de relation de l'âme avec le corps, avec l'extérieur, toute cette alchimie qui se fait au niveau des émotions et qui induit des transformations intérieures à chaque fois qu'il y a un stimulus qui arrive et qui modifie le comportement de la personne. Donc c'est vrai que quand on est fragile, on est plus sujet à avoir des troubles, c'est pas juste de dire psychiques, parce que pour moi c'est pas comme ça que je les appellerais, mais d'avoir des modifications du comportement qui peuvent être assez pénibles à vivre. C'est pas toujours facile d'apprendre à vivre avec. Des fois, on peut rester très longtemps très émotionnel, je le suis toujours, et c'est pour moi une qualité plus qu'un défaut. J'essaie toujours de garder cette relation au vivant pour pouvoir continuer en fait à entendre et à percevoir des choses que si j'avais une certaine rationalité, je ne pourrais pas apercevoir. Et à partir de là, donc à partir de cette écoute, je peux envisager en fait une rencontre avec une personne si nous avons à faire quelque chose ensemble.
Alors justement, comment définir ce trouble, comment vivre avec et comment le soigner? Ça, c'est l'expérience que vous avez, Marco Merlo, et vous travaillez d'ailleurs en collaboration, je l'ai dit, avec Philippe Rébellet. Dans ce programme notamment, JAD, est-ce que ça veut dire que quand on est entendeur de voix, on est en train de subir le début d'un problème psychologique? C'est une psychose débutante ou pas forcément?
Je pensais la question clé qui se pose vraiment, parce que de la recherche récente, on a vu que, et vous avez déjà mentionné, que certains moments avec des vécus hallucinatoires font partie de la vie normale, et spécialement dans la transition de l'enfant adolescent à l'âge des jeunes adultes, il y a des moments que la perception peut être souple, qu'on n'est pas sûr qu'est-ce qu'on a entendu et tout ça. Alors c'est très délicat parce qu'il y a ce dilemme qui est énorme, et dire à quel moment on doit intervenir, à quel moment il ne faut rien faire. Et l'autre, qu'est-ce qu'il faut faire comme intervention? Et je pense, et là, on a discuté ensemble avant, et on est tous quatre d'accord qu'il y a ce côté émotionnel, cette fragilité qui est liée à l'adolescence, et qu'il y a certains moments que ça bascule, à mon avis, dans des situations des cercles vicieux d'échecs que nous on voit, des jeunes qui n'arrivent plus à suivre, par exemple, l'école ou la formation, qui s'éloignent de plus en plus des contacts des jeunes de leur âge, et à un certain moment, ils sont pris dans une situation d'isolement, et là, c'est déjà très tard. Et notre effort, c'est d'arriver plus tôt, c'est-à-dire d'aider aussi à c'est clair, ce sont des spécialistes, nous on est des psychiatres adultes, il faut collaborer avec des pédopsychiatres, des psychologues dans les écoles, des infirmières qui travaillent dans les écoles, d'éviter que les jeunes s'éloignent tellement des contacts sociaux et arrivent à la fin d'être suivis en psychiatrie. Ça, c'est le but.
Alors, avant que vous puissiez vous poser vos questions, docteur Rebelet, de quelle manière concrètement vous travaillez avec ceux qui viennent vous voir?
Bon, je crois qu'on travaille d'une manière qui est très variée, mais peut-être pour revenir au thème que vous évoquiez, on ne peut pas considérer le fait d'entendre des voix comme un trouble en soi. Je crois que ça, c'est déjà un point important, parce que là, on est souvent aussi très prisonnier de nos systèmes de classification diagnostique qui ont fait, ben là, en l'occurrence, du phénomène tel qu'on l'écrit, c'est-à-dire d'une hallucination auditive, une composante de différents troubles psychiques. Et je pense qu'on est souvent pris aussi dans ces raccourcis, à voir, lorsqu'on a ce symptôme qui est présent, on va le voir comme quelque chose de pathologique dont il s'agirait absolument de se débarrasser. Mais une chose qui est importante, c'est que les gens nous consultent rarement ou sont rarement hospitalisés uniquement pour ça. Ils viennent chercher des soins ou de l'aide pour d'autres raisons, parce qu'il y a tout un cortège de symptômes ou des dysfonctionnements sociaux ou un mal-être qui viennent leur faire chercher de l'aide. Et pas uniquement pour ce phénomène-là, qui prend un tout autre sens, qui s'inscrit dans un ensemble, ou qui s'inscrit, comme le disait Marco Merlot, dans une dynamique psychique qui se met en place progressivement depuis l'enfance jusqu'à la jeune femme, tout au long de la vie.
Alors, dans la salle, il y a des patients, il y a des étudiants, il y a des confrères. Je pense que vous pouvez commencer à poser vos questions, puisque c'est un débat, donc d'échange. Je ne sais pas s'il y a un micro qui est censé circuler. Voilà, il est là. Vous levez la main et on va vous apporter le micro. Voilà, ici, devant. Merci.
J'ai une question en fait sur savoir pourquoi, déjà, merci de faire cette conférence. Je vous remercie déjà pour toutes les personnes qui vont pouvoir parler. Témoigner, poser des questions, c'est ce qui est le plus important et c'est la partie que je préfère. Donc moi j'ai une question au docteur qui s'occupe des gens qui justement entendent les voix. Pourquoi est-ce que, contrairement au monsieur qui a le groupe Rêve, pourquoi est-ce que vous ne précisez pas en fait que vous occupez aussi de, sous couvert de psychiatrie, de pathologie où on entend des voix ou tout comme ça. Je veux dire, le programme JAM ne porte pas le même nom que des gens qui justement entendent des voix. Pour moi, c'est comme si on essayait, c'est toujours un tabou. Et je pense que c'est un peu votre devoir. Si vous voulez que les gens viennent vers vous, je pense que c'est votre devoir de l'afficher clairement.
C'est peut-être pas le seul trouble que vous traitez.
Alors c'est clair, nous on ne traite pas seulement des entendeurs des voix dans le genre, c'est clair. L'autre problème, et c'est pourquoi on a choisi aussi le titre, c'est les grands dilemmes autour de la peur aussi. Comment on peut faire une intervention qui ne va pas augmenter encore plus la peur? C'est-à-dire comment on peut entrer en dialogue avec une personne qui est en détresse sans que les contacts avec cette personne avec l'institution amène encore plus de détresse. Et ça, c'est vraiment une chose qui pas seulement ici à Genève, on essaie de discuter. Hein, comment on peut aider à en parler de ce phénomène, et c'est pourquoi on est là aujourd'hui, sans que, d'un premier contact, la personne ait le sentiment que maintenant c'est pris au piège par un système psychiatrique.
Donc vous dites qu'il y a une collaboration, pas seulement à Genève. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une différence de façon de travailler par rapport à ce phénomène dans les différents pays?
Ah, bien sûr, il y a une énorme différence. Nous, on collabore beaucoup avec un groupe de Melbourne, en Australie. Et là aussi, il y a ce concept de la clinique qui s'appelle PACE, qui on essaie d'avoir un seuil très bas pour le premier contact pour des jeunes sans vraiment déjà parler des psychoses ou des voix ou des hallucinations. Il faut vraiment être très souple dans le premier contact et éviter aussi une certaine stigmatisation dans les contacts avec l'institution.
Une autre question ?
Oui. Moi, simplement, ce que je voudrais savoir, c'est les différences de degrés, c'est-à-dire entre les personnes qui entendent des voix, s'il y a des personnes différentes l'une à l'autre.
Docteur Philippe Rebelet, peut-être ?
Alors, oui, moi je crois qu'il y a des énormes différences. Je pense qu'on va retrouver probablement les mêmes différences qu'on va retrouver si on prend dans la société, les différences qu'on peut trouver entre les gens, on va les retrouver chez des entendeurs de voix. Ça d'une part, parce qu'il peut y avoir des tas d'autres choses associées. Si on prend dans ce qu'on voit nous comme psychiatres, on peut voir des gens qui consultent, qui ont ces phénomènes dans le cadre d'une crise de vie, dans le cadre d'une dépression ou dans le cadre d'autres troubles de la psycho. Donc on peut les voir dans différents troubles apparaître un tel phénomène. Et puis on peut voir aussi un phénomène sans qu'il ait du tout un tel phénomène, d'entendre des voix, sans du tout que c'est une quelconque valeur psychopathologique en soi. Je crois que ça c'est aussi important à rappeler, hein. On a parlé tout à l'heure avec vous, ça. Il y a quelque chose d'entendre une voix qui est aussi souvent assez proche, suivant le type qu'on rencontre, du dialogue intérieur. Moi, en écoutant mes collègues qui parlaient tout à l'heure, je pouvais aussi entendre ma propre voix en train de parler ou de commenter ce qui se passait, mais que je vais percevoir comme étant la mienne à ce moment-là. Mais que vraisemblablement, si on me faisait à ce moment-là une résonance magnétique cérébrale fonctionnelle, on en parlait aussi avec Dr Melo tout à l'heure, eh bien on verrait les mêmes zones dans mon cerveau qui s'activent que chez celle de quelqu'un qui va à un moment donné entendre des voix. Alors ensuite, on peut avoir un panel aussi très différent. Il y a des gens qui vont entendre une voix familière, agréable, d'autres une voix critique, d'autres qui vont entendre tout un cortège de voix, et que on peut voir aussi des gens qui ont des dizaines de voix en même temps dans leur esprit, et à ce moment-là, alors leur vie devient assez cauchemardesque parce qu'on n'arrive plus à fonctionner. Mais enfin, ça vous situe un peu l'ampleur aussi des diverses situations où on peut trouver ces phénomènes.
Mais est-ce qu'on peut dire que la palette est aussi large que quelqu'un qui entendrait des voix une fois par mois, et puis quelqu'un qui entendrait des voix mais absolument constamment?
Oui, tout à fait. Ça peut aller vraiment de quelqu'un qui entend une voix à un moment donné à quelqu'un qui peut être constamment en train de dialoguer à voix haute avec ses voix, où les répercussions sont effectivement très très différentes.
Martine Libertino?
Oui, dans le micro. Effectivement, oui. Moi, ce que j'aimerais rajouter, en fait, c'est que, pour répondre à la question de madame, je pense quand même que certaines personnalités sont plus à l'écoute de ces voix. Du fait, bon, c'est les références que j'ai vues pendant mes 25 ans de thérapie, c'est qu'au fond, plus une personne est matérialiste, plus une personne est concrète, moins elle est à l'écoute de sa sensibilité, parce que ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sensible, hein, mais plus elle a un besoin de contrôle et moins elle est à l'écoute de sa sensibilité, et effectivement, plus elle sera entre guillemets à l'abri de ses voies. Je ne dis pas que, je dis pas forcément qu'elle sera à l'abri parce qu'elle peut avoir d'autres problèmes dans sa vie, mais c'est vrai que si on regarde un petit peu l'ensemble de tous les patients qui sont venus me voir et qui entendaient des voix, ce sont des gens quand même au départ qui ont une personnalité avec beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité, et ce sont des gens qui de toute façon sont intuitifs. Seulement le problème, c'est que nous vivons dans un monde concret, dans un monde matérialiste, qui n'accepte pas ces facultés, parce qu'au fond, au départ, ce sont des facultés. Et lorsque des parents voient des enfants développer ce type de facultés, ça leur fait peur, parce qu'on est dans un monde conventionnel, et la différence fait peur. Donc, je dirais que quand même, c'est vrai qu'on peut imaginer que certaines personnalités, quand même, ont des facultés plus, développent plus ce genre de facultés.
Une autre question ? Oui, monsieur.
Comment faites-vous la distinction entre le dialogue intérieur et les voix ? C'est-à-dire à quel moment le dialogue intérieur devient une voix ou devient des voix, et quelle distinction vous faites entre ces voix et ce qu'on appelle le channeling, c'est-à-dire des gens qui tout à coup deviennent des médiums d'information qui ne leur appartiennent pas directement. Alors voilà, donc comment est-ce que vous classez tout ça et quelles sont les limites entre les uns et les autres?
C'est peut-être une question pour Marco Merlo. Avec le micro.
Sur la préférence.
Philippe Rébelet, Martino Martino. Là, je pense que c'est intéressant d'avoir l'avis de tout le monde.
Oui, c'était l'essentiel, ça, la question. Et l'essentiel, c'est que tous les trois domaines sont des vécus intérieurs. Et personne ne peut mesurer de l'extérieur qu'est-ce qui se passe dans l'intérieur. C'est-à-dire que ce sont des vécus intérieurs. Et la seule chose que nous, on a comme être humain pour échanger ça, c'est le dialogue. De parler avec la personne et de voir dans quelle façon cette personne gère ce vécu intérieur. Après, c'est de trouver un consensus ensemble entre cette expérience du vécu intérieur. Et c'est que moi, comme thérapeute, j'amène de l'expérience que moi j'ai fait avec plusieurs personnes. Ce qui pour moi est essentiel, c'est de ne pas rester dans le vécu intérieur, mais d'essayer d'aider, de faire des liens avec l'activité extérieure. Où je vois le grand problème, c'est de voir que certaines personnes, on peut l'appeler sensibles, tout ça, c'est une description qu'on peut utiliser, mais eux restent coincés dans ce vécu intérieur et perdent la possibilité d'entrer en action avec le monde extérieur.
Ça veut dire qu'il faut éviter le confinement et l'isolement.
Oui, et cette hyper-réflexion intérieure, c'est pour retrouver, d'accrocher avec des activités, avec des partages avec des autres personnes, et pas rester seul avec cette vécu.
Martine Bertino, oui. Peut-être.
Alors, je crois que ce qui serait intéressant peut-être, c'est de se poser la question pourquoi l'enfant ou l'adulte arrive à cet isolement intérieur, hein, pourquoi il arrive à cette souffrance. Parce que, au fond, le problème, il est là, hein, c'est que à un moment donné, l'enfant ou la personne va souffrir. Alors, on pourrait expliquer justement cette souffrance par le fait que l'être humain, au fond, a deux êtres en lui. Le premier, qu'on peut appeler, je dirais, sa conscience, qu'on peut appeler un être intérieur qui sera raisonnable, positif, etc., qui fait partie des voix donc, qu'il va entendre. Et puis le deuxième, qui sera son subconscient. Et ce subconscient qui est le réceptacle de toutes ses émotions. Alors maintenant, évidemment que... il faut aussi se poser une autre question, à savoir, est-ce que les émotions sont bonnes pour l'être humain ou est-ce que les émotions sont mauvaises pour l'être humain? Alors évidemment, on va me dire avec beaucoup d'enthousiasme, si je n'ai pas d'émotions, je suis indifférent, je suis dur, etc. Bon, alors là, ben, évidemment que...
Ça peut vous sauver la vie de vous couper de vos émotions. en situation de crise.
Bah, il faudrait d'abord comprendre ce que sont les émotions, c'est ça. C'est que si on considère que les émotions sont positives, à ce moment-là, on va les confondre avec des sentiments. Parce que moi, je fais une grande différence, une énorme différence entre mes sentiments, qui évidemment me donnent la possibilité d'aimer, de recevoir, de vivre, de jouir de la vie, d'avoir des qualités. Et je vais faire la différence avec mes émotions qui, en fait, ne sont que l'extrême négatif de mes sentiments et qui, eux, vont me faire souffrir. Et donc, ces émotions vont se trouver dans ce que j'appelle mon subconscient. Alors, à partir du moment où une personne est hypersensible, puisque la question de monsieur est celle-ci, est-ce qu'il y a une différence entre ces symptômes qu'on peut considérer comme une maladie et ce que vous appelez au fond la médiumnité, hein, puisque appelons ça la médiumnité, je dirais que pour moi il n'y a pas de différence, si ce n'est que effectivement lorsque j'écoute ma sensibilité avec ma raison, avec mon sens de l'analyse, avec mon intelligence, avec ma faculté d'avoir des sentiments sains, à partir de ce moment-là, je peux tout à fait entendre ces voix, je peux tout à fait vivre avec, et je peux même dire que ces voix vont me donner de bons conseils, vont m'amener à vivre des choses positives. Par contre, à partir du moment où ma sensibilité, à partir du moment où toutes ces voix vont être filtrées par mon subconscient, qui lui, au fond, n'est que un réceptacle de souffrance, puisque mon subconscient, c'est le réceptacle de mes peurs et de mes colères, à partir de ce moment-là, évidemment que ma sensibilité va me faire passer des messages qui vont me faire peur, qui vont me faire souffrir, qui vont m'amener à la colère. Et là, effectivement, je vais développer en moi des facultés nocives qui vont me faire du mal et qui, petit à petit, vont finalement influencer toute ma personne jusqu'à me faire prendre l'habitude d'entendre des voix, d'imaginer des voix qui, effectivement, peuvent aller jusqu'à me détruire.
Docteur Philippe Rebellet, vous voulez ajouter quelque chose?
Mais peut-être juste ajouter, dans la manière dont vous formuliez aussi la question, j'ai l'impression qu'on se situe aussi d'emblée dans une perspective un peu catégorielle. Il y aurait on pourrait voir ces phénomènes comme soit étant pathologique, soit ne l'étant pas, soit étant de ressort de perception extrasensorielle ou d'autres choses. Et moi, ce que je retenais aussi dans ce que disait soit Marco Merlo, soit Madame Libertino, c'est l'aspect de la relation aussi dynamique que le sujet va entretenir avec lui-même et avec cette perception, et le fait que, ou non, ça va l'empêcher ou ça va lui ouvrir des portes dans les relations avec le monde extérieur. Et je pense que si on raisonne dans une perspective peut-être plus dynamique, où ce qui est important, ce n'est pas le phénomène en soi, mais la relation qu'on entretient avec lui et aussi avec les autres, alors je rejoins tout à fait Mme Lisbon, je crois que la question ne se pose plus tellement de savoir qu'est-ce qui est, comment on va le considérer. On va devoir le considérer nécessairement dans la situation particulière, à un moment donné, avec un interlocuteur donné. Et c'est ça qui nous donnera peut-être des solutions, mais qui vont se réinventer avec chaque patient, quelque part, ou avec chaque personne qui pose la question.
François Liederman.
Oui, je voudrais rajouter, parce que en entendant votre question, moi ça me parle d'une problématique de rythme. Parce qu'on parle ici de sensibilité, d'émotion, d'émotivité, de choses qui nous touchent, donc de ces événements extérieurs ou intérieurs qui nous troublent, qui nous perturbent, qui laisse des traces quand il nous traverse. Et la façon dont on répond, il y a une question de temps qui est importante aussi, parce que suivant le tremblement que ça peut produire à l'intérieur d'une personne plus ou moins émotive, suivant sa fatigue, suivant beaucoup de paramètres, il y a peut-être aussi un facteur très important, c'est son temps de réponse, hein, c'est-à-dire son écologie au niveau de combien de temps, quel est son temps à elle pour pouvoir trouver un apaisement et faire quelque chose avec l'information. Si on entend des voix, si on perçoit des choses que les gens ne voient pas, si c'est qu'il y a quelque chose qui se manifeste dans le monde, dans l'univers, ça ne vient pas de nulle part, ça vient toujours de quelque part, d'une source, qu'elle soit intérieure ou extérieure. On n'est pas forcément censé de percevoir tous la même chose. Tout le monde n'a pas non plus l'ouverture de percevoir certaines sensibilités que d'autres ont. Et ça, c'est une chose qui est très, très importante. Donc il y a des sacrées différences entre chaque individu à ce niveau-là. Mais la façon dont on répond, la façon dont on arrive à trouver un apaisement ou est-ce qu'on est dans une situation de stress va modifier beaucoup de choses dans la réponse qu'on va avoir. Et parfois, il nous faut du temps, simplement du temps, et pouvoir rentrer dans son temps. Et notre société, des fois, ne tolère pas ce temps. On a un rythme de vie qui est calculé en fonction d'un rythme chronocratique extrêmement précis, des fois très contraignant, avec des plages horaires qui sont contenues et à l'intérieur desquelles nous devons pratiquer certaines activités, répondre à certaines demandes. Et tout d'un coup, ça ne correspond pas au rythme de l'individu. Et nous avons... moi, c'est quelque chose que j'observe depuis très longtemps et qui m'intéresse profondément, c'est cette relation au temps et à la façon dont, en fait, une personne doit découvrir son écologie pour pouvoir dire, oh, mais stop, attends, là, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Toi, tu peux répondre à cette rapidité, moi, pas. Et c'est vrai que les gens sensibles, on a besoin de plus.
Ça a répondu à votre question ?
Pas tout à fait, parce que, en fait, ce qui m'intéressait, moi, le plus, c'était... la relation au dialogue intérieur dont vous avez parlé, parce que bon, moi j'ai mon dialogue intérieur.
À savoir si c'est une voie positive ou négative.
Et d'abord déjà le phénomène lui-même du dialogue intérieur, je trouve que c'est déjà un phénomène intéressant, parce que qui dialogue avec qui. Et puis est-ce que les gens qui entendent des voix, est-ce que c'est encore quelque chose d'autre, ou est-ce que c'est simplement un dialogue intérieur peut-être exacerbé et qui n'étant pas manifesté ou exprimé à l'extérieur, devient une espèce de chose récurrente, obsédante, ou à la limite de l'hallucinatoire. Et alors, quelle est la différence, s'il y en a une, entre entendre des voix et le dialogue intérieur?
Mais je pense qu'ils ont répondu à cette question en disant que ce n'est pas le seul trouble. En général, il y a d'autres troubles qui sont liés. Et donc, il y a une espèce d'analyse qui doit être faite du contexte du patient.
Si vous permettez.
Oui.
Par rapport à ça... des fois, jusqu'où il faut aller pour entendre quelque chose. Vous parlez de dialogue intérieur. Bon, j'ai un dialogue intérieur, je l'entends. Et puis, ça me permet, en fait, d'avancer et de comprendre des choses ou de résoudre des problèmes. Mais il y a des gens qui n'entendent pas ce dialogue intérieur et qui doivent traverser, des fois, des silences intérieurs au fond. Mais au fond, il y a toujours une petite voix qui se manifeste. Et c'est un petit peu jusqu'à quel point elle doit prendre de l'ampleur pour pouvoir être entendue, cette petite voix. Il y a quelque chose qui se développe constamment dans notre quotidien, on est toujours en devenir. On ne s'arrête pas, en fait, aujourd'hui, puis ça y est, je ne vais pas changer. Mais notre mode de vie nous invite aussi à ne pas changer, parce que si on n'a pas toujours le temps non plus d'entendre cette petite voix ou de s'occuper de soi, voilà, on a une source de trouble. Et si on ne fait pas trop attention à ça, ce que j'ai observé, c'est qu'au bout d'un moment, ça commence à hurler. Quitte à jusqu'à aller au point d'entendre des voix ou d'avoir d'autres types de manifestations qui sont des fois des injonctions qui sont très dures à entendre. C'est une expérience que j'ai faite pendant 6 ans à l'hôpital en accompagnant des patients malades. Au centre même de leur maladie, il y a des choses qui ne sont pas entendues. Et pourquoi ils sont malades, à quelque part, c'est jusqu'à quel point ils n'ont pas été. Il faut que leur souffrance trouve le moyen d'hurler pour qu'elle soit entendue de leur quotidien. C'est une chose. Maintenant, au niveau du challenging, c'est peut-être une disponibilité en fait, de certaines personnes d'avoir cette relation au vivant, au relationnel, et de pouvoir en fait, restituer à un individu extérieur des choses qu'il percevrait en fait de façon intuitive. C'est tout à fait possible. Je veux dire, le mode de communication ne se limite pas forcément qu'à la parole. Il y a tout le reste qui existe. Et sur le plan énergétique, c'est extrêmement vaste, c'est très large. Donc là, on est dans un champ, mais on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est pas le but de la conférence, parce que ce serait trop long. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible.
Merci, madame.
Je peux d'abord dire quelque chose. Il me semble que monsieur pose la question précisément parce qu'il n'a pas entendu de voix. Moi, je n'en ai jamais entendu non plus. Enfin, il me semble que c'est pas du tout pareil ce qu'il appelle dialogue intérieur et que moi j'appellerais plutôt monologue intérieur, parce que tout le monde se cause à soi-même. Hein. Et ce dialogue qui est les voix, c'est-à-dire les voix, c'est notamment. j'entends quelqu'un d'autre, et ça s'entend, si je laisse parler les personnes que je connais qui entendent, ça s'entend comme une voix. Et que ces voix soient agréables ou désagréables, enfin vous disent des choses agréables ou désagréables, c'est quand même désagréable d'entendre quelqu'un qui vous parle dans votre tête comme une personne qui est là. Alors il me semble que poser la question, je vais vous faire compte, c'est comme les dames qui demandaient, je me demande si j'ai eu un orgasme. Eh bien, si vous posez la question, c'est que vous n'en avez pas eu. Alors, c'est la même chose avec les voix, me semble-t-il. Alors, je voudrais...
Est-ce que votre question, c'est pas de se dire si...
J'ai une question. Je voudrais savoir, on fait beaucoup de la relation entre le stress et les voix. Mais madame a dit, par exemple, qu'elle a des patients qui arrivent qui sont complètement légumes et qui entendent encore des voix. Donc, on sait qu'on donne des médicaments pour supprimer ces voix, mais qu'on n'y réussit pas. Et j'ai une question depuis très longtemps. Je voudrais savoir dans quelle mesure les médicaments peuvent causer les voix, et pas seulement les supprimer, mais les causer. Et dans quelle mesure ces voix ne sont pas contagieuses. C'est-à-dire qu'à force de suggérer au patient et lui demander est-ce que vous entendez des voix, est-ce que vous avez des idées, si le patient ne finit pas par en avoir. Mmh.
Merci. C'est peut-être une question pour le docteur Marco Merlot. Non. Je ne sais pas.
Alors, c'est deux questions, si j'ai bien compris. La première question, c'est des médicaments. C'est possible que des médicaments induisent.
Provoquent des voix.
Alors, ça, c'est possible, oui. Mais c'est clair que l'utilisation des médicaments doit être prudente et il faut toujours évaluer qu'on ne va pas faire plus de dégâts qu'on du bien. Ça, c'est clair. La part du traitement. L'autre question, c'est à mon avis aussi correct, c'est que j'essaie d'expliquer à mes équipes. Si on est là à 15 personnes dans une équipe, dans une unité, et 15 personnes demandent aux patients tout le matin s'il a encore des voix, ça ne va pas aider à réduire les voix. Parce que le patient pense que la seule chose qui intéresse, c'est juste des voix. Et c'est aussi le modèle que j'essaie de défendre, c'est qu'il faut prendre très sérieux le voix, et je pense que c'est une souffrance souvent, pas toujours, il y a certains qui ne souffrent pas, mais la grande majorité en souffre, mais nous on n'est pas là comme thérapeute de supprimer les voix, nous on est là d'aider la personne de retrouver des capacités, de faire des choses, d'entrer en dialogue avec les autres et comme ça. Si dans ce moment-là, qu'il y a une amélioration dans tous les deux domaines, de l'action et de la communication, on voit souvent qu'il y a une réduction des voix. Et quelquefois aussi, il n'y a plus de voix. Mais quelquefois, il y a des voix, mais on arrive à vivre sa vie comme tous les autres. Et ce n'est pas tellement grave. Mais le grand problème, c'est qu'on est tellement envahi des voix qu'on est complètement bloqué et on ne fait plus rien, on reste à la maison, on regarde le mur blanc et on ne fait plus rien. Alors ça, c'est terrible, parce qu'on perd les possibilités de notre vie, que c'est l'échange avec d'autres personnes.
Mais madame, derrière votre question, est-ce qu'il n'y a pas une question sous-jacente de savoir si on entend des voix qui vous font faire des choses négatives ? Est-ce qu'il n'y a pas ça? Non? Bon, mais c'est quand même une question que...
Ça doit être horriblement gênant d'entendre des voix. Même oui. Si vous dites des choses gentilles, si vraiment c'est un phénomène comme s'il y avait quelqu'un qui était dans votre tête, qui parlait à haute voix, ça doit être...
Mais il y a les voix qu'on entend et il y a les voix qui vous font faire des choses négatives aussi. Martine Libertino.
Alors, bon, moi je dirais, pour répondre à la première question, à savoir est-ce qu'un médicament va nous amener à entendre des voix, je dirais un petit peu plus, j'irai un petit peu plus dans la subtilité. Je dirais que un médicament peut renforcer chez une personne sa tendance à entendre des voix. Je dirais pas que c'est le médicament lui-même qui va amener une personne à entendre des voix. Bon, ça c'est une première réponse. Ensuite, quant à ces voix que nous entendons, je dirais qu'au fond, il y a deux formes de voix que nous pourrions entendre. La première avec laquelle nous pouvons vivre sans aucun problème, et puis la seconde qui va vraiment nous faire peur parce que c'est pas le même type de voix justement. Alors la première, au fond, on pourrait essayer de faire référence à ce que j'appelle la sensibilité, ce que j'appelais tout à l'heure une forme d'intuition, une forme de médiumnité, qui peut amener au fond une personne à entendre effectivement des voix, mais finalement c'est la voix de sa raison. On pourrait considérer que c'est la voix de sa raison, c'est une voix qui va lui dire des choses positives, qui va lui donner des conseils, qui va la mener à faire des choix dans sa vie, qui ne vont absolument pas perturber cette personne. Bon. Et là, je parle d'une voix qui fait référence à l'intuition d'une personne qui est tout à fait existante et qui existe chez chacun de nous, mais que malheureusement, nous n'écoutons pas parce que dès notre enfance, on nous apprend à être rationnel et on nous apprend plutôt à oublier ce genre de choses. Maintenant, si on parle de la seconde voix, là, je dirais qu'on a affaire à notre imagination. Donc, ce sont deux voix qui sont complètement différentes, au fond, qui viennent de causes complètement différentes. Et effectivement, lorsque j'utilise mon imagination et que je l'utilise inconsciemment, parce qu'il y a deux manières d'utiliser mon imagination, je peux l'utiliser soit pour créer, je peux l'utiliser soit pour construire des images qui vont peut-être me faire plaisir, mais je peux aussi finalement être la proie de mon imagination qui va en même temps provenir de certains paramètres de ma personnalité. Prenons par exemple une personne qui a beaucoup de peur. Il y a des enfants qui naissent avec beaucoup de peur, et ces peurs souvent sont renforcées par un comportement familial avec des parents justement qui ont beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse pour leurs enfants. Et donc il va y avoir une espèce de, je dirais, d'angoisse familiale qui s'installe, qui fait que cet enfant va développer une imagination, je dirais, un peu morbide. Et à partir de ce moment-là, cet enfant va être à l'écoute. Journellement, va être à l'écoute quotidiennement de cette voix, mais qui en fait vient de son imagination, et son imagination qui va être récurrente tout le temps, et c'est une personne, c'est un enfant qui va commencer en fait à imaginer des choses, à imaginer des choses qui vont lui arriver ou qui vont arriver à son entourage, et cet enfant, et plus tard cet adulte, peut commencer à inventer des situations dans sa tête qui vont de plus en plus l'angoisser et dont il pense ne pas pouvoir se débarrasser. Et pour moi, ces voix-là viennent d'une imagination qui est en nous, qui au départ est positive, mais qui va être interprétée par l'enfant en fonction de nos émotions et en fonction de nos peurs.
Docteur Philippe Rébellet, vous vouliez ajouter quelque chose?
Peut-être juste un petit complément sur cette question du traitement médicamenteux, parce que je crois qu'il est important de rappeler aussi qu'on ne donne pas un traitement uniquement parce qu'il y a ce symptôme-là. Et on ne cherche pas non plus à faire taire ces voix à travers ce traitement. On va donner un traitement parce qu'on va constater aussi, à un moment donné, des dysfonctionnements qui vont empêcher la personne de se sentir à l'aise avec elle-même et avec les autres. Et je crois que ça m'apparaît un point important, parce qu'on n'est pas du tout dans une opposition entre pour nous, comme psychiatre, entre un traitement pharmacologique ou une approche psychothérapeutique, mais bien plutôt de voir quelles sont les complémentarités qu'on peut avoir entre les deux. Ça me semble quand même important à préciser.
Une autre question? Monsieur.
La voix envahissante, malfaisante, elle fait aussi partie du folklore cinématographique et romanesque de la psychiatrie, dont tout le monde en a entendu parler. Est-ce que quelqu'un parmi vous ou dans la salle peut donner un exemple de voix qui au contraire serait plus dans ce que vous, Madame Libertino, définissez comme étant des voix d'intuition qui sont comme des guides, donc une voix qui aurait ce rôle complètement positif pour la personne qui l'entend?
Martine Libertino.
Donc vous demandez un témoignage dans la salle ou
vous, si vous avez un exemple?
Ouais. Bah écoutez, des exemples, je crois qu'on les a autour de nous dans notre vie tous les jours. Je les ai tous les jours avec mes patients, ces exemples, avec les gens qui viennent me voir, qui travaillent avec moi. Et ce qui est intéressant au fond de voir, c'est que si on regarde le dénouement d'une vie, si on regarde le développement d'une vie, on va s'apercevoir que, et c'est une expérience vécue pour chaque patient qui vient de me voir, chaque personne qui travaille avec moi, on va s'apercevoir que, indépendamment de la sensibilité d'une personne, indépendamment de son champ émotionnel, plus une personne va apprendre à se libérer de ses peurs, à se libérer de ses colères, à comprendre son enfance, à trouver un équilibre d'ordre émotionnel, plus cette personne va entendre justement ce type de voix, va entendre son intuition, hein, si on peut dire, et va de moins en moins être influencée par des voix qui vont par exemple l'amener à déjà prévoir tout ce qui va lui arriver, à faire des scénarios catastrophes que nous connaissons tous, hein, on sait ce que c'est les scénarios catastrophes, c'est-à-dire qu'on va imaginer déjà une situation que nous allons vivre dans le futur, et on va imaginer cette situation avec les pires catastrophes qui puissent nous arriver, et au fond on se rend compte que plus une personne va imaginer des situations et plus elle va les attirer. La constatation que nous pouvons faire et que j'ai vue tout au long de ces 25 ans de thérapie, c'est que plus une personne apprend à gérer ses problèmes émotionnels, plus elle apprend à s'en libérer, et plus elle va être à l'écoute de la voix de sa raison qui va l'amener justement à faire de bons choix dans sa vie.
François Lederman, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, alors c'est beaucoup plus général. C'est vrai que l'histoire de l'humanité l'exprime à tous les grands tournants de l'évolution, de notre évolution. Je veux dire, les passages de civilisation à d'autres ont été des moments de trouble profonds où il y a eu des grands visionnaires, des grands prophètes et des personnes de ce genre-là. Et c'est intéressant que ça se passe dans des périodes comme de cet ordre. Oui, je crois que c'est très porteur du devenir de l'inconscient collectif et du développement de l'humanité à travers ces inconscients collectifs qui nous informent tous, finalement. C'est vraiment quelque chose à laquelle on participe.
Ça répond à votre question ?
Vous pouvez prendre vos livres d'histoire et puis retourner dedans, vous verrez, c'est plein d'exemples.
Oui, non, c'est vrai qu'à ce moment-là, la question complémentaire qui se pose, c'est, mais qui revient aussi à une question qui a déjà été posée, c'est où est la frontière entre la voix qu'on entend comme métaphore d'une mission que l'on ressent, d'une motivation profonde, d'un élan du fait d'avoir trouvé quelque chose qu'on interprète comme sa destinée et qui se manifeste avec une telle force qu'on dit j'ai entendu la voix. Donc dans quelle mesure c'est une métaphore et dans quelle mesure c'est une réalité qu'on perçoit comme étant sensorielle. Moi je reste encore dans le flou quant à savoir où vous placez cette frontière.
Je crois qu'il y a Monsieur Bobin, Christian Bobin, qui est un écrivain français, qui a écrit une très belle page sur entre le fou et le saint, dans un livre qui s'appelle Le Trébat. On ne va pas vous citer parce que c'est quand même assez long, mais je crois qu'il y a le fou regarde pour lui et s'isole, et le saint lui restitue en fait à travers la relation aux autres. Et il me semble qu'il y a encore un facteur qui me paraît très important, c'est l'humilité.
Vous voulez ajouter quelque chose ?
D'être humain, quoi. Et je crois que là, on est...
Je vais être un peu plus pragmatique, moi, mais si on revient quand on parle d'entendeur de voix, où on parle aussi d'hallucination, comme on la définit, c'est une perception, on va la définir comme une perception sans objet. Alors, moi, je me disais, peut-être avec votre question, ça pose la question, quel est l'objet qu'on va chercher ? On peut, et comme le posait la question Frédéric Madame, on voyait très bien qu'il y avait, et on voit ça aussi dans la CIMIC, c'est que les gens identifient, eux, très clairement, si c'est un dialogue intérieur ou si c'est une voix de quelqu'un d'autre. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de tout cela ? Je crois que là où ça devient un problème, c'est pas le fait que ce soit dans une catégorie ou dans un autre, que ce soit un dialogue intérieur ou bien quelque chose de défini comme une hallucination, mais c'est vraiment le rapport que la personne va entretenir avec ça. Est-ce qu'on arrive à redéfinir un objet qui va avoir du sens à cette perception apparemment sans objet ? Peut-être qu'on arrive à retrouver un sens intérieur, donc on va retrouver aussi là un objet intérieur, même si la voix vient de l'extérieur, ou même si c'est la voix de quelqu'un d'autre.
On va prendre Oui, mademoiselle, qui attend depuis un moment.
Oui, ma voix intérieure me somme de prendre le micro, sinon je vais exploser, n'est-ce pas ? coaching, c'est un réflexe sain. Comme d'habitude, j'ai beaucoup de choses à dire. Tout simplement qu'on a parlé aussi, est-ce que les voies qui sont positives ou négatives peuvent changer? Moi, je dirais oui, parce que je l'ai fait. Parce que je connais très bien M. Merlot. Je connais très bien la thérapie médicamenteuse. Je sais ce que c'est. Je connais la médiumnité aussi. Et c'est ça dont j'aimerais vous parler maintenant. C'est que je connais un livre qui s'appelle « Le livre des médiums ». Et c'est un autre domaine, c'est pas la psychologie, ça touche, on l'appelle doctrine philosophique ou, et science d'observation. Donc ça vient, c'est un Français en fait dans les années 1800 qui a fait un recueil de témoignages de gens qu'on dit médiums. Et ce sont... Je vais citer ce que je sais, c'est qu'on dit que ce sont des voies de l'au-delà, ou comme j'ai envie de l'interpréter, les voies intérieures. Donc, je dirais que les deux peuvent être liés. Donc, après, c'est une question d'interprétation. Et ce chemin m'a en tout cas beaucoup aidé. Je sais qu'ici, en Suisse, dans notre société, on a aussi beaucoup d'a priori, beaucoup, beaucoup, parce que moi, je parle de ça comme quelque chose qui m'a aidé. Et je reçois encore des barrières face à ça, parce que c'est une secte, parce que c'est un tabou, parce que c'est... Et ma famille, d'ailleurs, on a pâti, parce que c'est ma mère qui m'a amené ses livres pour me les lire, pour lire l'Évangile. Et ça m'a aidée, parce que j'ai pu rentrer en dialogue avec moi-même. Et voilà, c'est ça le plus important en fait, c'est que de se rendre compte que notre cœur il nous parle et que ben, la vraie voix intérieure c'est celle-là quoi.
Merci pour ce témoignage. Il y a une question là-haut, madame.
En fait, c'est pas une question, c'est pour répondre à monsieur en donnant un témoignage. De mon côté, j'ai fait un petit travail avec Martine Hubertino qui m'a amené à déjà faire le tri dans toutes les voies. Alors, quoi faire avec tout ça, c'était le gros problème. Et puis, que j'ai développé grâce à Martine Hubertino, c'était simplement la capacité à me rendre compte, premièrement, de ben, laquelle s'enclencher. Est-ce que c'était celle du subconscient, donc de mes émotions, des choses perturbées? Ou est-ce que c'était celle de ma conscience, celle qui m'aidait, qui me permettait de m'orienter dans la vie. Donc ça a été le premier pas, c'est d'arriver à prendre ce recul. Le recul, ça serait si j'étais une troisième personne qui, elle, observait les deux, en train de discuter, ou en tout cas en train de dire des choses. Et simplement, rien que ça, ça a permis, premièrement, de remettre chacune à sa place et de choisir laquelle j'avais envie d'entendre. Ça, c'est un premier pas qui m'a amené après, justement, à pouvoir transformer ma vie. Parce que j'ai goûté la deuxième, qui est souvent en fait la première, c'est celle qui nous donne notre intuition de départ, et qui m'a après orientée dans mes choix. Et les choix ont fait qu'aujourd'hui, ma vie est complètement transformée. Voilà.
Merci. Je crois qu'il y a une question devant pour madame. On va prendre encore 2-3 questions.
Je voudrais juste faire une petite intervention. Pour répondre justement à monsieur, finalement, la différence qu'on va voir entre la barrière, la frontière qui se situe entre ces deux choses, c'est que justement, lorsque mon subconscient me parle, je souffre. Alors que lorsque ma conscience me parle, donc la voix de mon intuition, en général, même si elle me dit des choses que je n'ai pas envie d'entendre, je ne vais pas souffrir parce que je sais justement, ça s'impose à moi, je sais que c'est juste et ça m'amènera toujours à faire des choses positives dans ma vie et à faire des choix qui correspondent à mes besoins. Donc je dirais que c'est là où va se situer la frontière, si on peut parler de frontière.
Madame ?
Oui, moi j'aimerais juste qu'on m'explique le clivage qui est fait entre subconscient, enfin moi j'aurais dit inconscient, mais c'est des catégories, qui serait négatif par rapport aux intuitions qui seraient positives, parce que le rapport qu'on peut avoir avec son inconscient, je pense par le médium de Thérèse, par exemple, c'est quelque chose qui ne paraît pas négatif, a priori. Et l'autre chose aussi, en fonction des témoignages qu'il y a là, j'ai l'impression que ce qui est très important, c'est le sens qu'on donne à l'expérience qu'on fait. Que ce soit des gens qui tirent matière de leurs rêves, ou bien qui, à partir des voix, dans le sens d'une bonne intuition, en font non seulement l'accueil, mais également orientent leur vie en fonction de cela. Alors, la dernière chose, la question que je voulais poser, c'était juste par rapport au rêve. J'ai cru comprendre une fois que les gens qui étaient somnambules, c'était, en fait, excusez-moi, c'était des gens qui matérialisaient au-delà de simplement le rêve habituel, hein, qu'ils recevaient dans leur sommeil. Et alors, je me demandais si finalement, quand on entend parler des gens dans ces rêves, puisqu'on arrive même à entendre des gens vous parler en langue étrangère dans ce cas-là, si ça ne fonctionne pas de la même façon par rapport aux voix, c'est-à-dire comme une espèce d'exacerbation de choses qui, dans un rêve habituel, ne serait qu'un contenu mental.
Oui. Qui va répondre?
Je vais quand même répondre concernant le subconscient, et ensuite je vais laisser la parole. Alors, pour répondre à votre question, déjà, ne faisons pas un amalgame entre l'inconscient et le subconscient. Ce sont pour moi deux choses différentes, en tout cas dans la philosophie que j'enseigne, à savoir que l'inconscient n'est pas négatif. L'inconscient, c'est tout ce qui fait partie justement de ce qui n'est pas concret à l'intérieur de moi. Et je dirais que l'intuition, comme les sentiments, comme les émotions, pour moi, font partie de l'inconscient. Donc là, je vous rejoins tout à fait. Il n'y a absolument rien de négatif dans l'inconscient. Par contre, je fais une différence entre le subconscient et la conscience, qui tous deux font partie de mon inconscient. Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, le subconscient, pour moi, est un réservoir de mes émotions. Et quand je parle de négativité, il faut faire très attention, je ne parle pas de choses méchantes, en fait, c'est pas ça. Hein. La négativité concernant mes émotions simplement me fait remarquer que lorsque j'ai une émotion, je souffre. Lorsque j'ai un sentiment, je ne souffre pas. Donc c'est la différence que je fais entre l'émotion et le sentiment. Donc c'est pour ça quand je parle du subconscient, je parle de quelque chose de négatif, à savoir des émotions qui vont me faire souffrir. Mais je ne mélange pas l'inconscient et le subconscient, ce sont deux choses différentes.
Docteur, vous voulez répondre ?
L'aspect rêve qui est très intéressant, et c'est vraiment intéressant de voir que nous, dans l'esprit conscient qu'on a dans la journée, normal, on peut faire la différence entre vécu des rêves et non vécu des rêves. Et que dans des états d'alternation de l'esprit, comme par exemple dans des psychoses graves, on mélange les choses. On ne sait plus si on est dans une rêve ou on n'est pas dans une rêve. Et on peut voir ça vraiment comme une perte des frontières entre les deux. Ça, c'est clair. L'autre que j'aimerais quand même dire, et ça c'est important, avec le dialogue intérieur, c'est vraiment le côté spirituel que vous avez aussi mentionné. On peut parler des médiums, mais on peut, je pense aussi, même dans notre société, parler aussi des religions. Hein. La religion aussi, c'est un côté très important de notre existence, et que c'est important que aussi une science comme la psychiatrie n'oublie pas qu'il y a cette dimension, qu'il faut la intégrer dans notre travail. Et ça, c'est essentiel pour vraiment comprendre la globalité du phénomène.
Merci. Je crois qu'on pourrait en discuter pendant des heures, mais on va prendre une dernière question. Madame, monsieur, alors on va prendre madame et puis ensuite monsieur pour terminer. Ah, il y a madame là-haut. Bon, alors on va faire monsieur et après madame. Voilà, c'est pas grave, après ça se reprend. Voilà.
J'aurais deux questions. Premièrement, est-ce que ce phénomène peut-il conduire à des psychoses? Et deuxième question, est-ce que ces phénomènes sont apparus surtout ces dernières années ou est-ce qu'ils ont toujours existé? Et encore une question, sont-ils en recrudescence?
Philippe Rébonnet, il faut vous faire participer un petit peu quand même.
C'est trop facile.
Non, pas du tout.
Alors, Bon, est-ce que ça peut conduire à des psychoses ben oui, sinon, ce qu'on peut voir, nous, c'est que ça peut être une des manifestations, comme on l'a dit tout à l'heure, de troubles psychotiques. Je ne pense pas du tout que ce soit un phénomène qui, en soi, va, comme ça, induire un trouble psychotique ou une psychose, mais c'est un phénomène qu'on peut retrouver dans le cadre de ces troubles, comme dans le cadre d'autres troubles. Par rapport à la deuxième question que vous posiez, c'est de savoir est-ce qu'il est en recrudescence. Je ne crois pas qu'à l'heure actuelle, on ait vraiment des données épidémiologiques sur l'évolution au fil du temps. Ce qu'on peut présupposer quand même, c'est que c'est peut-être un aspect qu'on n'a pas du tout évoqué ce soir, mais on sait aussi la relation qu'il peut y avoir entre ces phénomènes et puis la consommation de toxiques, de drogues, cannabis en premier lieu, là, qui est en nette recrudescence dans nos sociétés. Et là, on peut se dire aussi qu'à terme, il n'est pas impossible que l'augmentation quand même assez massive de la consommation du cannabis et ensuite une influence et puis amène à une recrudescence de tels phénomènes, puisqu'on sait que les phénomènes hallucinatoires sont quand même souvent provoqués aussi par des drogues.
Mais vous avez donné un chiffre avant, en préparant la soirée, un chiffre assez effrayant concernant les adolescents qui ont des troubles à l'hôpital. Vous avez donné un pourcentage de jeunes adolescents qui souffrent, non ?
Je me souviens, non, pas de pourcentage. On a parlé effectivement des pourcentages de gens qui pouvaient à un moment ou à un autre avoir un tel phénomène, alors qui peut aller jusqu'à 30-40% d'entendre ça une fois dans sa vie. Autrement, les chiffres qu'on avait évoqués, c'était de l'ordre de 5% de la population qui ressent ces phénomènes-là.
Merci. Madame ?
Oui, alors, toutes ces voix, c'est vrai qu'on reste un petit peu dans un sujet qui... où on se pose quelques questions à ce niveau. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Mon fils souffre de schizophrénie depuis 15 ans maintenant. Je connais à peu près toute la médication qu'on peut donner à ce niveau-là. Et je suis surprise, disons, qu'il n'y ait pas plus de choses dans le sens que nous savons maintenant que la SMT existe. Donc c'est de la stimulation magnétique transcrânienne. Nous avions eu la joie d'avoir une conférence à ce sujet par les docteurs Gola et le docteur Rachid. Et c'est un petit peu... dommage que, disons, au niveau de la schizophrénie, je crois que entendre des voix et les hallucinations auditives dont on parle fréquemment, c'est quelque chose de monnaie courante, ou en tout cas très fréquent.
60% des schizophrènes.
Voilà. En schizophrénie, ce sont des choses qui se passent très fréquemment. Et moi, je dois dire, de voir mon fils souffrir comme ça depuis autant d'années et entendre autant de voix, parce que vraiment, ça a l'air de le perturber énormément, et de ne pas trouver un moyen pour au moins apaiser tout ça, parce que la médication, je peux vous assurer que je peux vous en citer beaucoup de médicaments, et rien n'y fait. Alors peut-être il y a, tout comme des gens qui peuvent être sensibles et disons, ressentir certaines choses par le biais justement de feeling, de différentes catégories de choses comme ça. Moi je dois dire, je suis... inquiète, non, mais je dois dire, en tout cas, impuissante et triste, et vraiment, je suis désemparée de voir avec quelle fréquence mon fils entend des voix, et qu'on ne puisse pas mettre plus vite en place la SMT, qui peut-être, je ne dis pas que ce sera l'apogée, mais peut-être, et au moins avoir essayé, parce que vraiment, c'est... lorsque les gens entendent en schizophrénie des voix, ça peut être vraiment très, très difficile. Il est vraiment avec de très grandes souffrances.
Alors, bon, bien sûr qu'il n'y a pas de miracle, mais il y a des moyens quand même. Maintenant, ces moyens ne sont pas forcément une réussite à chaque fois parce que tout va dépendre du patient. Vous comprenez bien que même si nous avons des techniques de travail, même si nous avons des moyens à donner à un patient, c'est quand même lui qui va décider ce qu'il veut en faire et la manière dont il va interpréter ce qu'on va lui donner. Mais bon, je peux simplement vous donner un témoignage. Ce témoignage, évidemment, c'est le mien. Il n'y a pas toujours des réussites, mais en tout cas, je dirais que j'ai vu des réussites vraiment assez importantes parmi certains jeunes qui sont venus me voir. Mais ce travail que ces jeunes vont faire avec moi va leur demander vraiment une prise en charge totale d'eux-mêmes. Hein. Et j'ai eu des patients qui entendent des voix. Je peux parler en particulier d'une de mes patientes qui est venue me voir il y a environ une année et demie et qui avait des hallucinations très très fortes, très violentes, qui l'a menée à demander, parce qu'elle est dans un institut, elle était dans un institut, et périodiquement elle demandait à se faire enfermer parce qu'elle devenait agressive et elle devenait très violente à cause de ses voix qui la paniquaient complètement et qui paniquaient évidemment toute sa famille. Cette personne est venue me voir parce que ses parents ne savaient plus quoi en faire. Elle était sous médicaments, elle prenait en tout cas une douzaine de médicaments par jour,
des doses
très fortes. C'est une jeune femme qui a 23 ans. Et donc elle souffrait de ces symptômes depuis en tout cas 6 à 7 ans. Elle a passé des années dans des instituts. Et vraiment, le parcours de votre fils me fait penser vraiment au parcours de cette jeune fille. Et lorsqu'elle est venue me voir, elle était donc sous médicaments. J'avais beaucoup de difficultés à communiquer avec elle. Mais la première chose que je lui ai proposé de faire, c'est déjà de se rendre compte quel pouvoir ses voix pouvaient avoir sur elle. Et de se rendre compte qu'en fait, c'est vrai qu'elle entendait ses voix, c'est vrai qu'elle avait peur de ses voix, que ses voix la paniquaient, mais qu'en fait, elle avait le pouvoir sur ses voix. Et je lui ai montré aussi à quel point ses voix venaient de ses émotions et de son imagination finalement qui la perturbait complètement. Et petit à petit, je l'ai aidée justement à maîtriser ses voix et à ne pas en avoir peur. Le premier travail qu'elle a fait, c'est de devenir spectatrice de ses voix qui l'a perturbée et qui l'a menée vraiment à paniquer complètement. Parce qu'on lui disait des choses qui étaient vraiment abominables. Et en plus, c'était des choses qui la culpabilisaient par rapport à l'humanité. Donc c'était très dur ce qu'elle avait à vivre. Le premier travail qu'elle a fait, qu'elle a réussi à faire, avec beaucoup, c'est vrai que ça lui a demandé beaucoup de volonté, c'est de devenir spectatrice de ses voix, de les écouter et de se rendre compte qu'au fond, même si elle avait ses voix, même si ses voix lui disaient des choses qui la faisaient souffrir, au bout du compte, elle était toujours là, elle était toujours vivante et elle pouvait continuer à vivre. Ça, c'est déjà une première victoire qu'elle a eue sur elle-même. Et ensuite, petit à petit, c'est vrai que ce travail était douloureux. Pendant les premières semaines du travail que nous avons fait ensemble, elle savait qu'elle pouvait me téléphoner quand tout d'un coup ses voix venaient et qu'elle se mettait à paniquer. Et plusieurs fois, elle m'a téléphoné. Et ça a duré, finalement, c'était très rapide. C'est que dans les premières semaines de sa thérapie, elle m'a téléphoné 2 ou 3 fois parce qu'elle était en plein délire et qu'elle avait peur de ses voix. Après 5 minutes de discussion au téléphone, elle pouvait s'apaiser parce que je lui demandais justement d'écouter ses voix, de les regarder de l'extérieur, de prendre un certain recul. Et petit à petit, elle pouvait s'apaiser et elle pouvait maîtriser sa situation. Et petit à petit, évidemment qu'on a fait un travail familial. J'ai demandé que ses parents viennent. On a fait une thérapie familiale avec ses parents, avec ses frères et sœurs, etc. Et petit à petit, elle s'est rendue compte qu'au fond, elle avait une volonté. Elle avait une force qui lui permettait finalement de dire à ses voix qu'elle les entendait, mais qu'elle était plus forte qu'elle, et qu'elle ne lui faisait pas de mal, et qu'elle ne se laisserait plus faire. Et en 3 mois, ses voix ont cessé, ses voix ont disparu. Alors je ne dis pas que je n'ai que des victoires comme ça, parce que ça serait vous mentir, hein, puisque là c'est vrai que je suis tombée sur une patiente qui avait la volonté de s'en sortir. La famille a accepté de travailler aussi, de faire une thérapie, parce qu'elle avait autour d'elle des parents qui avaient finalement autant de peur qu'elle, et qui exerçaient une espèce de pression sur elle du fait de sa peur. Mais bon, si je peux vous donner en tout cas ce témoignage, c'est qu'au bout de 3 mois, cette personne n'a plus d'hallucinations et ne souffre plus de ses voix. Ce qui n'empêche pas de rester émotive, ce qui n'empêche pas évidemment de continuer un parcours qui va lui demander de toute façon de gérer son intuition, de gérer sa sensibilité, de se rendre compte aussi de certaines choses qui l'ont amené à ça, à savoir son incapacité à vouloir assumer la vie, sa difficulté d'accepter le quotidien. Enfin, je dirais qu'il y a quand même certaines choses parmi nous, de toute façon, puisque nous avons tous des difficultés émotionnelles, nous avons tous ce qu'on pourrait appeler des défauts, donc elle en avait aussi. Et c'est vrai que finalement, le plus gros travail qu'elle a à faire aujourd'hui, cette personne, c'est de se rendre compte de ces problèmes émotionnels qui font que il y a au fond d'elle une difficulté qui peut l'amener à avoir des problèmes de rejet, qui l'amène à avoir des problèmes d'adaptation, des problèmes de responsabilité, qui finalement sont des difficultés que nous partageons tous avec elle, mais qu'elle ne savait pas gérer par une exacerbation, je dirais, par une exagération de son imagination et de ses problèmes émotionnels. Mais en tout cas, elle s'en est sortie.
Merci. Je prends rendez-vous demain.
Je ne fais pas de miracle. Chaque cas, sa cabine avec moi.
Oui, bah, on va faire une dernière question. Alors. Justement, vous avez dit prendre rendez-vous demain. Je tiens à préciser que l'objectif et l'intérêt de cette soirée, c'est de pouvoir témoigner, on l'a entendu. Il y a ce livre que vous pouvez trouver qui est Entendre des voix, c'est un guide pratique avec des témoignages. Et puis, vous pourrez trouver aussi les publications qui concernent la formation de médiateur et l'école d'éveil philosophique pour les adolescents et les enfants des éditions du Champ Libertino. Et puis, on va terminer avec madame.
Dans beaucoup de pays, parce que chez moi, justement, au Brésil, ça se fait aussi beaucoup d'une autre manière, qui est peut-être plus spirituelle, où il y a une intercommunication qui est très intéressante pour vous, messieurs, dames, qui est justement avec la religion. Et je me propose de vous faire part aussi d'adresses e-mail pour que vous aussi, vous puissiez communiquer avec eux et voir que là-bas aussi, le travail se fait, même si c'est pas le même pays, quoi.
Merci, merci d'être venu ce soir. Et je pense qu'on peut. Oui, François Lederman.
Alors, oui, c'était simplement pour une petite annonce, puisque dans le cadre de la collaboration qu'on avait entre les hôpitaux universitaires et puis le réseau d'entraide des entendeurs de voix, un de nos médecins a développé un protocole de thèse où on essaye aussi de comparer deux populations, c'est-à-dire des populations comme on peut les voir qui nous consultent pour des troubles psychiatriques et qui entendent des voix, et des populations qui entendent des voix mais qui n'ont jamais consulté les psychiatres, parce que pour nous, il était important de voir aussi si on pouvait avoir des différences entre ces deux populations, si la nature des phénomènes était différente ou si, disons, le sens que la personne va donner à ces phénomènes est différent, parce que ça nous apparaît plus cela le facteur déterminant que le fait d'entendre ou non des voix. C'était juste un petit peu de publicité pour ça, puisqu'on cherchait aussi des sujets qui entendaient des voix mais qui n'avaient jamais consulté de psychiatre, ce qui n'est pas toujours évident ici à Genève, parce qu'il y a beaucoup de psychiatres.
Alors n'hésitez pas à noter les coordonnées. François Lederman.
Pour rappeler que nous avons un groupe de parole
tous les lundi.
Tous les derniers lundis de chaque mois. C'est un groupe de parole qui est ouvert à tout le monde, vraiment fait pour les entendeurs de voix, mais aussi pour les personnes qui s'intéressent, les proches, les membres de leur famille.
Je crois qu'on peut donner le numéro de téléphone. Je ne l'ai pas.
Oui, c'est le 346.
022 346.
46-21. 346-46-21. Ouais. C'est pas mon numéro, c'est pour ça que je ne sais pas. Voilà, juste deux mots, si je peux dire deux mots sur le groupe de parole. C'est vraiment un groupe qui est ouvert à tout le monde, qui n'a pas de visée thérapeutique. Nous ne sommes pas des thérapeutes dans ce groupe, mais le groupe a une dynamique thérapeutique dans le sens où les gens échangent leur vécu, partagent leur réalité, et ça rebondit chez chacun, et on puise ce qu'on a appuisé, ce qu'on peut prendre, mais c'est vraiment un lieu d'humanité et de partage.
D'accord, alors on rappelle, le dernier lundi de chaque mois, au 022-346-48-21. Si vous voulez répondre aux questions, c'est le numéro qui est là, le livre « Entendre des voix », et puis les livres des éditions du Champ Martine Libertino. Merci à tous d'être venus ce soir. Merci. À bientôt.